Aujourd'hui, nous avons le plaisir considérable d'accueillir Jocelyn Benoît. Bon, je ne vais pas présenter longuement et même presque pas du tout. D'abord parce qu'il est bien connu de vous. Il est l'auteur d'un nombre considérable de publications dont vous connaissez certainement au moins certains. Donc je dirais simplement qu'il est, professeur à l'Université Paris 1 et il a choisi comme titre pour sa communication le prix du réalisme. Enfin, je crois qu'il va vous donner immédiatement des précisions sur ce dont il s'agit au juste. Je dirais simplement en ce qui me concerne que comme j'aimerais bien pouvoir rester réaliste, j'espère que le prix pour l'être n'est pas trop élevé. Jocelyn, vous avez la parole.
Merci beaucoup donc, pour cette invitation. Bon, je ne pense pas qu'il soit élevé, je pense qu'il est exigeant, mais en philosophie, on ne peut pas tout avoir à la fois. Pour avoir certaines choses, il faut accepter de se plier à certaines contraintes, certaines demandes.
Ça me paraît clair.
Alors j'ai précisé donc ce titre, qui en lui-même était un peu énigmatique. Donc le titre définitif, c'est « Le prix du réalisme, réalisme du référent, réalisme de la référence et finitude du sens ». Et je voudrais commencer cet exposé d'abord par un hommage, rendre à César ce qui lui appartient, au sens où je dois dire que plus j'avançais dans la préparation de cet exposé, plus j'avais le sentiment de me retrouver tel Scott sur les traces d'Amundsen, puisque plus je voyais au fur et à mesure que les problèmes se présentaient à moi, les traces du travail précédemment accompli par Sandra Lugier, et j'avais le sentiment d'être parti sur un chemin peut-être aussi tragique que celui de Scott, au sens où je ne suis pas sûr qu'il se termine très bien, alors que je crois qu'elle a réussi à atteindre parfaitement ses objectifs de ce côté-là. Donc d'une certaine façon, l'exposé que je vais faire recoupera beaucoup de choses que Sandra Lugier a déjà établies dans son livre, il y a déjà quelques années, « Du réel à l'ordinaire ». Un livre paru chez Vrin en 99. Alors, la question donc qui m'était posée et qui m'embarrassait beaucoup, c'est la philosophie peut-elle être systématique et doit-elle l'être ? Alors, je veux dire que j'étais très embarrassé par cette question parce que je dois dire que ce genre de question relève d'un souci métaphilosophique qui, s'il a pu jouer un rôle très central dans la tradition, la philosophie donnant parfois l'impression, dans une certaine tradition, de n'être plus capable de parler que d'elle-même, ma propre évolution par rapport à la philosophie m'a conduit à tenir ce genre d'interrogation pour finalement peut-être pas aussi philosophique qu'elle n'en a l'air. Pour moi, c'est un peu une profession de foi, mais on verra après le sens qu'elle peut prendre plus techniquement dans le fil de l'analyse. La philosophie n'a de sens qu'à parler de cet univers non en lui-même philosophique, au sens où ça n'aurait pas de sens que de l'appeler tel, qui la précède et qui est indépendant d'elle, cet univers de ce qu'on appelle les choses réelles. Alors, quand on amène une thèse aussi massive, évidemment, on ne peut qu'être conscient tout de suite du caractère très problématique de cette détermination même que je viens d'avancer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les choses réelles ? Et en un certain sens, il se pourrait que ce problème valide la question posée, par rapport à laquelle j'ai commencé par prendre mes distances, puisqu'il se pourrait qu'à ce niveau, on rejoigne dans une certaine mesure la dite question du système. C'est en effet un aspect de cette question du système que de soulever le problème du caractère référentiel ou non du discours des philosophes. Dans une certaine lecture, qu'il est convenu d'appeler structuraliste, de la notion de système, c'est la cohérence du discours qui prime. Chaque système constitue un tout, comme tel incommensurable aux autres systèmes, et cela n'a pas de sens de les comparer en termes de vérité. Les systèmes devraient plutôt être appréciés comme des œuvres d'art, présentant chacun sa perfection architectonique propre. Il est clair que si c'est ce qu'il faut entendre par système, je ne saurais pour ma part aspirer au système, ce qui ne veut pas dire, suivant une distinction précieuse faite par Michael Dummett, que j'entende me tenir quitte pour autant de l'exigence qui paraît tout à fait minimale et par la même fondamentale de la cohérence logique. L'idée même de système entendu en ce sens structural semble reposer sur un affranchissement du discours par rapport à la contrainte du réel, qui constitue à mes yeux une forme d'illusion transcendantale, puisqu'elle sépare purement et simplement le discours de ce qu'il rend en fait possible. Cela dit, la nature de cette contrainte que je viens de formuler demeure certainement un point tout à fait problématique et représente, quant à elle, un authentique problème philosophique de ceux sur lesquels les philosophes n'ont pas fini d'écrire. Et c'est sur ce problème que je voudrais revenir aujourd'hui, sur ce problème, dans la forme qu'a pu lui donner Michael Dummett, dans des termes tout à fait magistraux, dans l'article qui, à un mot près, donne son titre à ce séminaire. « Can analytical philosophy be systematic and ought it to be. Article 75. Dans la reconstruction logique que Demet propose des différents types de systèmes philosophiques, le réalisme est caractérisé par la validité inconditionnée du principe de bivalence, ce principe suivant lequel tout énoncé est soit vrai, soit faux. Une telle détermination a bien sûr, de la part de Demet, d'abord une fonction critique. Il s'agit, pour le philosophe anglais, de déstabiliser les certitudes du réalisme en mettant en évidence les limites d'un tel principe. Avec d'autres philosophes, je dois dire que je pense, quant à moi, qu'une telle caractérisation est incorrecte. Un véritable réalisme ne peut pas être fondé sur le maintien inconditionnel du principe de bivalence, et le fait qu'il y ait des exceptions à ce principe de bivalence, loin de contresigner l'échec du réalisme, marque à mes yeux, bien au contraire, l'emprise de ce principe de réalisme. Tout au plus, ces failles au principe de bivalence indiquent-elles l'inanité d'une certaine représentation spéculaire du réalisme en tant que réalisme absolu, ce que j'appellerais pour ma part le réalisme métaphysique. Alors pour saisir l'enjeu de cette correction que je voudrais essayer d'introduire par rapport à la thèse de Demet, il importe d'abord de suivre Demet dans sa construction et dans sa critique propre de ce qu'il appelle lui réalisme, entendu comme règne sans partage de la bivalence. Première section, le réalisme dans les limites de l'assertibilité. L'argumentation de Demet, ancienne, elle est déjà en place dans ses grandes lignes dès 1959, dans son article « Truth », est sophistiquée du point de vue logique. Elle repose sur une distinction très forte entre le tertium non datur, donc le principe qu'on pourrait énoncer sous la forme « pas d'énoncé qui ne soit ni vrai ni faux », principe d'absence d'une troisième valeur de vérité, et de l'autre côté, le principe de bivalence, donc qu'on peut énoncer sous la forme « tout énoncé est ou vrai ou faux ». Évidemment, deuxième principe qu'on croit souvent, trop souvent, pouvoir dériver du premier. Le point important, c'est que Demet, loin de faire droit à des énoncés qui seraient positivement ni vrais ni faux, et donc auxquels il faudrait attribuer une troisième valeur de vérité, on ne sait pas laquelle, fait bien de la vérité et de la fausseté les deux valeurs exclusives qu'un énoncé peut prendre. En revanche, en bon intuitionnisme, Demet refuse de tirer de cette exclusivité du vrai et du faux, qui se partagent à eux seuls l'espace des valeurs, la conséquence suivant laquelle tout énoncé devrait pour autant être vrai ou faux. Cette affirmation lui paraît en effet nous conduire au-delà des limites du vérifiable et donc de celles dans lesquelles les notions de vrai et de faux ont selon lui un sens. Alors, il prend un exemple évidemment qui est devenu très célèbre, qui a été beaucoup discuté. Quelle peut bien être la valeur de vérité d'un énoncé affirmant la bravoure d'un mort, qu'il appelle Jones, dont la bravoure n'aurait jamais, en aucun cas, été mise à l'épreuve. Un réaliste, selon Demet, serait celui qui affirmerait qu'il n'en reste pas moins que Jones avait ou n'avait pas, objectivement, cette propriété de bravoure, et donc que l'énoncé en question a une valeur dont on peut tout au plus supposer que nous en resterons toujours ignorants. L'argument antiréaliste de Demet consiste à dire qu'une telle idée n'a pas de sens s'il n'est pas possible, en ce qui concerne Jones, de produire un fait qui soit du type de ceux d'habitude invoqués pour justifier l'imputation de bravoure à quelqu'un. Or, le fait est qu'il y a des cas où ce n'est pas possible, où il n'y a pas un tel fait. Il y a des énoncés que nous ne serons donc jamais en position d'asserter. Ce n'a dès lors pas de sens de traiter ces énoncés comme vrais ou faux, ce qui ne veut pas dire que cela ait pour autant positivement un sens de les traiter comme ni vrais ni faux, comme s'il y avait là une troisième option, pour ainsi dire posée à côté des autres, par défaut. En réalité, c'est plutôt que ce genre d'énoncés n'atteigne pas au niveau où ils pourraient être qualifiés comme vrais ou faux. Les conditions pour eux d'être assertibles, donc évaluables, ne sont pas réunies. Une part de ce que je voudrais essayer de montrer, en un sens, c'est que ce raisonnement développé par Demet sur des cas bien particuliers, donc je rappelle, pour lui il s'agit des énoncés conditionnels, ou en tout cas d'un certain type d'énoncés conditionnels de type irréel, si les circonstances y étaient prêtées, Jones aurait eu l'occasion de manifester sa bravoure et on aurait vu qu'il était ce qu'il était, à savoir brave. Il s'agit d'autre part des énoncés portant sur le futur ou lointain passé, et il s'agit enfin des énoncés de forme quantificationnelle mettant en œuvre une quantification sur un domaine infini. Eh bien, je voudrais essayer de montrer que cette analyse de Demet développée sur des cas bien particuliers s'applique en réalité bien au-delà de ce qu'il croit et vient bousculer la bivalence jusque dans les limites mêmes dans lesquelles, dans sa propre pensée, elle paraît inexpugnable. De Maistre est en effet plus un penseur de la bivalence limitée qu'un véritable ennemi de la bivalence. Il pense que dans certaines limites, celles de ce qu'on pourrait appeler les énoncés francs, bona fide, assertibles, la bivalence est parfaitement valable. C'est un point très important de son analyse, que la prétention naturelle d'un énoncé soit la vérité et que l'échec de cette prétention, dans le cas normal, le cas qu'on pourrait appeler normal, celui où on a affaire à un contenu assertible, c'est-à-dire un contenu pour lequel il existe un ou des faits typiquement vérifiants, doivent toujours s'interpréter dans les termes de la valeur de vérité opposée, à savoir le faux. C'est en effet un aspect central du texte de Genèse « Truth » que de s'opposer farouchement à la théorie de la présupposition défendue par Strawson, selon laquelle il y aurait précisément des énoncés ordinaires, ni vrais ni faux. L'idée de Strawson, c'était que si je dis « l'actuel roi de France est chauve », suivant l'exemple rossellien, je dis alors quelque chose qui n'est ni vrai ni faux, puisqu'il n'y a pas de tel roi de France. Il serait donc possible d'énoncer des énoncés ni vrais ni faux, bien que leurs conditions d'assertibilité semblent relativement claires. Nous avons bien une idée de ce qui vérifierait un tel énoncé, à savoir l'existence actuelle d'un roi de France chauve. Contrairement à ce qui pouvait se passer dans le cas de la bravoure de Jones, qui n'est plus, n'a jamais eu l'occasion de manifester s'il était brave ou non, et dont on ne voit pas quelle propriété attestée pourrait justifier de prise de position en ce qui concerne cette question. L'analyse fournie par De Maistre du puzzle russellien est au contraire, à un certain niveau, fidèle à Russell. De Maistre identifie l'idée d'énoncer ni vrai ni faux, dans ce cas, à une échappatoire. En effet, que prétend un énoncé éminemment assertible, comme celui selon lequel l'actuel roi de France serait chauve ? Purement et simplement qu'il y a un tel roi de France. Donc s'il n'y a pas un tel roi, et l'énoncé en question n'est donc pas vrai, ce qui suppose que ça ait un sens de dire qu'il n'est pas vrai, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la bravoure de Jones, alors, inévitablement, il n'y a pas d'autre solution que de dire qu'il est faux. De Maistre, voilà un trait essentiel de la grammaire des énoncés, statements, dans les limites de leur usage standard, à savoir l'assertion, ce qui suppose qu'il porte sur quelque chose d'assertible, donc tel que cela ait un sens que le locuteur se représente en position de l'asserter. Un énoncé se définit par la prétention à la vérité, par laquelle le locuteur, structurellement, s'expose au risque du faux, si les conditions stipulées par l'énoncé ne sont pas satisfaites. Dans toute condition autre que celle stipulée, l'énoncé est tout simplement faux. De Maistre illustre ce point dans une analyse pénétrante des différents types d'actes de langage par une comparaison avec le cas du pari. Il y a des paris conditionnels, mais il n'y a pas d'assertion conditionnelle. Je peux parier que si tel cheval court, alors il remportera la course. Logiquement, alors, le pari est un pari conditionnel et non pas un pari sur le conditionnel. Là encore, si c'était un pari sur le conditionnel, les conditions de vérifiabilité du pari, dans ce cas-là, ne seraient vraiment pas évidentes. En tout cas, au cas où le cheval ne court pas, dans quelle mesure est-ce que le pari conditionnel est vérifié ou pas, le pari sur conditionnel est vérifié ou pas, ce n'est pas clair du tout. En revanche, si au lieu de l'interpréter comme un pari sur le conditionnel, on l'interprète comme un pari conditionnel, la situation devient très claire. Si le cheval court et gagne, je gagne mon pari. S'il court et perd, je le perds. S'il ne court pas, alors tout simplement, le pari est annulé, puisqu'une condition de l'effectivité du pari était que le cheval court. Alors, De Maistre soutient qu'il y a un réel contraste, de ce point de vue-là, entre la logique d'un acte de langage tel que le pari et la logique des énoncés déclaratifs, des statements. Alors pour le comprendre, De Maistre utilise le modèle du commandement. Il établit un parallèle entre commandement et énoncé déclaratif, statement. Je voudrais illustrer ça par un exemple vécu. On peut passer par l'exemple de la promesse, qui fonctionne de façon relativement analogue avec le commandement. Cet exemple vécu, c'était il y a quelques années. Notre fils s'est trouvé impliqué dans un grand mouvement de protestation lycéen, auquel il voit une énergie, à vrai dire, plutôt supérieure à celle qu'il place habituellement dans son travail. Alors, un matin, sa mère, tout à fait inquiète des conséquences de cet activisme subi sur sa scolarité, lui demande « Mais promets-moi que tu iras au lycée ce matin. » Et notre fils répond alors « Oui, je te promets que j'irai au lycée, mais évidemment, s'il est bloqué, je ne pourrai pas y aller, et je ferai tout pour le bloquer ce matin. » Alors, exemple intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est clair qu'une telle promesse n'est pas une promesse, pour une raison très simple. C'est qu'une promesse implique qu'on fasse tout pour la réalisation de l'état de choses promis. C'est ça la la notion même interne de promesse. Et toute démarche intentionnellement destinée à empêcher la réalisation de cet état de choses entre en contradiction avec la logique même de la promesse. Il en est de même pour les statements. Nous pouvons certes asserter un conditionnel, ce qui peut poser des problèmes très réels d'assertibilité s'il s'agit d'un conditionnel de type irréel, mais nous ne pouvons pas asserter conditionnellement. Nous assertons ou n'assertons pas, un point c'est tout. Et si nous assertons, nous nous engageons à ce que nous assertons soit vrai, purement et simplement. Thomas dit ça dans un terme très fort, il dit « we commit ourselves to its being true ». Si vous dites à un malheureux touriste britannique égaré que l'actuel roi de France est chauve, et s'il vous reproche votre imposture une fois celle-ci dévoilée, vous ne pouvez sérieusement lui répondre que vous n'avez jamais dit qu'il y avait un roi de France. Il serait alors en droit de vous accuser de jouer sur les mots. En disant que l'actuel roi de France est chauve, vous vous êtes engagé à ce qu'il y ait un tel roi de France et chauve. De ce point de vue, il faut souligner qu'il y a quelque chose comme une inspiration authentiquement réaliste dans la position autoproclamée anti-réaliste de Demet, comme lui-même d'ailleurs le souligne dans ses premiers textes. Dans les limites, à savoir celle de l'assertible, où le réalisme a un sens, on pourrait dire que Demet est parfaitement réaliste et met en avant une exigence typiquement réaliste. Peut-être d'ailleurs, à propos de Demet, vaudrait-il mieux parler de réalisme finitiste que d'anti-réalisme. Le point de vue de Demet est réaliste sur une portion fondamentale du domaine des énoncés, ce qu'il est possible de se représenter comme assertible. Si par réalisme, on entend, comme lui, suivant ses propres termes, la position selon laquelle un énoncé est nécessairement vrai ou faux. La conséquence, on pourrait dire que c'est un réalisme non transcendant, en quelque sorte. La conséquence, c'est que tous les énoncés appartenant à ce domaine de base tracent immédiatement, selon lui, un partage dans le réel. On ne peut pas tenir nos énoncés à distance du réel, faire comme s'ils ne le concernaient pas, et sauf certains cas privilégiés, ce réel les laisser intacts, ne leur conférer aucune valeur. Je cite toujours l'article de 59, Truth, « Un énoncé, tant qu'il n'est ni ambigu ni vague, divise tous les états de choses possibles en juste deux classes. » Donc c'est parfaitement clair. Il y a les états de choses qui rendent l'énoncé en question vrai, et il y a les états de choses qui rendent l'énoncé en question faux. Ce principe d'impact du réel, quel qu'il soit, sur nos énoncés bona fide, on pourrait dire, suivant la détermination que j'ai proposée, peut assurément être lu comme une formulation possible d'une exigence de type proprement réaliste. Comme un véritable énoncé nous engage par rapport au réel, quel que soit l'état du réel, celui-ci lui fait quelque chose, lui donne nécessairement une valeur ou une autre. En fait, on pourrait dire que l'antiréalisme de Demet tient essentiellement en deux thèses. Première thèse, tout énoncé légitimement asserté est nécessairement sémantiquement déterminé, vrai ou faux. Ce qui constitue en effet une norme typiquement réaliste, mais qui va évidemment être corrigée, et le point important évidemment c'est la notion de légitimement asserté, qu'est-ce que ça veut dire légitimement asserté, par la thèse numéro 2, ne peut être légitimement asserté que ce dont celui qui l'asserte peut se représenter les conditions d'assertibilité. Cette seconde norme peut sembler de bon sens, et à vrai dire, donner à la position de Demet une sorte de supplément de réalisme, en semblant reconduire l'assertion aux limites de ce qui peut être effectivement asserté. Il y a une exigence d'effectivité, de constructibilité là-dedans. Je pense pourtant que Demet a parfaitement raison de caractériser cette position, telle que je viens de la résumer, comme anti-réaliste. Je pense en effet que les deux thèses sont fausses, du point de vue d'un véritable réalisme, et en fait pour une seule et même raison. Le véritable réalisme ne saurait en effet s'accommoder ni de la détermination sémantique absolue érigée en modèle par Demet, ni, encore moins peut-être, de l'idéal de maîtrisabilité intégrale des conditions de celle-ci, qui dans son programme intuitionniste intervient en fait en prolongement, bien plus qu'en contestation du premier réquisite, ce que j'appellerais le réquisite de détermination, de façon en fait à le rendre effectif. En effet, je soutiendrai que d'un point de vue authentiquement réaliste, premièrement, il n'est pas vrai que tout énoncé bona fide, au sens qui a été défini, soit toujours intrinsèquement évaluable comme vrai ou faux. Et deuxièmement, il n'est pas vrai, pour les mêmes raisons, que nous puissions jamais avoir de certitude absolue quant à l'assertibilité de ce que nous assertons. Donc, deuxième temps de l'analyse, le sol raboteux de l'assertion. Est-il vrai que les énoncés que nous utilisons communément, donc je mets à part les cas litigieux de ce qu'on pourrait appeler référence transcendante, structurellement transcendante à nos capacités cognitives, est-il vrai donc que ces énoncés communs soient toujours susceptibles d'une interprétation réaliste au sens de Demet, c'est-à-dire telle que leur valeur de vérité soit uniformément déterminée, ne présente pas de trous? Si on présente les énoncés du langage ordinaire, si on considère les énoncés du langage ordinaire, on peut en réalité tout à fait en douter. Alors, je voudrais ici évidemment m'appuyer sur une analyse très forte qui a été donnée d'un exemple d'Austin par Charles Travis. Je vais appuyer essentiellement sur deux articles de Charles Travis. Le premier paru en 1994 sous le titre « On being truth valued » et dans un deuxième papier en 1998, Charles Travis a repris ses thèses essentielles sur ce point en les mobilisant dans une critique frontale de Demet. C'est un papier qui en fait est tourné contre Demet, que Travis a publié en 1998 sous le titre « Sublunary Intuitionism », intuitionnisme sublunaire, donc une belle référence aristotélicienne. Alors, je voudrais donc broder librement à partir d'un exemple qu'on trouve chez Austin et qui est réactivé récemment dans le dernier film des frères Cohen. Il y a un passage tout à fait extraordinaire où cet exemple est mis en scène de façon particulièrement percutante. Donc, dans « No Country for Old Men », il y a un passage où vous voyez un des protagonistes appeler la chambre d'hôtel où se trouve un autre, mais il se trouve que son contact a déjà été tué par un serial killer qui se trouve dans la chambre, à côté du corps. Le corps de la victime est sur un fauteuil dans la chambre. Le téléphone sonne, le tueur décroche, et le correspondant demande si l'occupant habituel de la chambre est là. Alors le tueur, qui est un très remarquable philosophe du langage, qui manifestement a lu Charles Travis, répond « Not in the sense that you mean ». Pas au sens où vous l'entendez. Alors cette formule tout à fait extraordinaire est une très grande précision analytique. La remarque du tueur fait droit au simple fait qu'une réponse comme « oui, il est là » en réalité ne répondrait pas à la question posée par le héros. Ce que demande le héros, ce n'est pas si le cadavre de Carson Wells se trouve là, mais si le Carson Wells avec lequel il peut faire affaire et discuter, Carson Wells vivant, est là. Alors, on a l'impression de retrouver ici un cas au fond analogue à celui de l'affirmation sur l'actuel roi de France. Tout se passe comme si la mort de Carson Wells rendait en fait fausse, hein, suivant l'analyse précédente de Demet que je mentionnais, l'affirmation suivant laquelle il serait là. En même temps, c'est plus compliqué, parce que supposer le même énoncé de la part du même personnage, si au bout du fil, c'est le personnage qu'on appelle dans certains films de mafia, il y a ça par exemple dans The Pulp Fiction, si c'est le personnage qui s'appelle le nettoyeur qui l'appelle, et qui lui demande si un tel est là. Dans ce cas-là, la réponse « oui, il est là », est tout à fait pertinente. La question est de savoir, finalement, dans quel scénario cette réponse intervient et, pour employer le langage austinien, on which purpose, dans quelle intention, à quel dessein est dit ce qui est dit. Alors, évidemment, on dira que dans les deux cas, suivant la signification différente, ce n'est pas exactement le même énoncé auquel on a affaire. Ou plutôt, on dira que le même énoncé peut en fait être entendu de façon différente. Il faudra faire donc droit à ce que Charles Travis appelle dans son lexique la notion d'entente, understanding, d'un énoncé. Or, suivant l'analyse proposée par Travis, l'erreur serait de croire premièrement que ce problème soit seulement local, qu'un énoncé puisse jamais être vecteur de sens et avoir des conditions de vérité indépendamment d'une entente déterminée qui lui serait associée. Et deuxièmement, l'erreur serait également de croire que le problème de la détermination d'une telle entente soit toujours déjà résolu en ce qui concerne toute énonciation de fait et qu'aucun conflit d'entente, y compris potentiellement insurmontable, ne puisse jamais surgir à ce niveau. Le premier point renvoie au fait qu'il n'y a jamais de sens en soi d'une expression, mais ce sens est strictement lié à une façon particulière de l'utiliser, « on some purpose », comme dirait Austin dans son bel article sur la vérité. Ce qui veut dire que ce qui revêt un certain sens sous un certain understanding peut toujours très bien en revêtir un autre sous un autre understanding. Et il y aura forcément des cas où il le fera effectivement. Il y en aura tout simplement parce qu'il est impossible de concevoir un understanding qui serait tout terrain. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est besoin d'understandings et que l'expression ne suffit pas. Les understandings permettent, pour autant que cela soit possible, l'adaptation de l'usage de l'expression à des contextes différents. Entendu en des sens différents, la même expression peut se révéler pertinente dans des situations différentes. Raisonner en termes d'understandings, c'est donc mesurer la constante adaptation du discours au réel. Et donc vous voyez ici réapparaître le thème réaliste en un sens bien différent. Il peut être tentant, et la philosophie a plus que souvent cédé à cette tentation, d'hypostasier les understandings en en faisant autant de significations différentes d'une expression. On dirait alors que sous couleur d'une même expression, ce sont purement et simplement autant d'énoncés différents qui sont effectués. Une telle approche, qui consiste à retirer leur ambiguïté aux énoncés, est toutefois erronée, car elle revient à suggérer qu'il puisse y avoir énoncé en quelque sorte en retrait de l'expression, en deçà ou en dehors des mots. Non, énoncé, c'est toujours le faire avec des mots, au moyen d'une expression. Or, il n'y a pas d'expression qui ne soit pas ouverte en elle-même à une diversité d'understandings. C'est une propriété intrinsèque de l'expression, dans son étrange face-à-face avec le réel, qui demande toujours à être ajustée à la mesure même de la diversité et de l'immaîtrisabilité a priori de celui-ci. Donc, ce qu'on fait avec une expression, un statement, est toujours affecté d'un coefficient d'entente, understanding. Je n'ai pas dit, vous remarquerez, interprétation, ce qui serait un tout autre problème. L'énoncé, au sens du statement, n'est pas le résultat inambigu d'une entente qui le précéderait, mais il est bien plutôt ce en quoi une telle entente intervient effectivement, et donc ce qui est essentiellement sujet à de possibles révisions et discussions de cette entente. Ce qu'on interprète, au cas et au seul cas où l'entente n'est plus évidente, et où il devient donc nécessaire de passer à ce registre qui serait celui d'interprétation, ce n'est pas une expression par elle-même, détachée de tout usage, mais ce sont les paroles de quelqu'un énoncées dans des circonstances déterminées, ce que la tradition austinienne a appelé précisément un statement. C'est à ce niveau, et à ce niveau seulement, que la question de l'entente en jeu peut devenir pertinente. La désambiguation absolue, dans la réification d'entente qui n'aurait plus leur lieu dans des paroles effectives, mais serait a priori disponible comme distinctes les unes des autres, revient à ne plus apercevoir qu'il n'est possible au discours de déployer ce qu'on appelle sens que dans l'usage effectif de signes, avec l'ambiguïté constitutive qui en est inséparable. C'est dire que s'il n'y a pas d'énoncé sans que l'expression qui y est utilisée soit prise suivant une certaine entente, cette entente, dans l'énoncé lui-même, ne peut jamais se présenter comme absolue. Cela non pas au sens où elle serait forcément incertaine, mais au sens où elle ne peut jamais exclure que ce qui est dit là puisse revêtir aussi bien, dans d'autres contextes, un autre sens. Il y a dans tout usage cette ouverture constitutive à d'autres usages, précisément parce que l'usage effectif d'une expression suppose toujours cette mise en place d'une entente définie de cette expression, une entente qui en exclut d'autres, mais par là même se situe toujours aussi par rapport à cette possibilité ouverte d'autres ententes. Or, le problème que pose avec beaucoup de force Charles Travis dans sa critique de Demet est celui de la clôture ou de la maîtrise de cette ouverture des autres ententes possibles. Si je vous dis que l'actuel roi de France est chauve, a-t-on dit, il peut sembler évident que mon énoncé exclut l'inexistence d'un tel roi de France. Si c'est ainsi qu'il doit être entendu, ce qui dans un contexte standard semble en l'occurrence parfaitement clair, alors l'inexistence d'un tel roi le rend faux. En d'autres termes, il nous autorise à dire « non, l'actuel roi de France n'est pas chauve ». Ça a un sens de passer à la négation. Et dans ce cas-là, l'idée, on peut dire ça parce qu'il n'y a pas de roi de France. Mais que dire si l'énoncé intervient, par exemple, dans un contexte d'une discussion entre amis, ironique, sur la récente perte de prestige de Nicolas Sarkozy. Après tout, on peut très bien envisager un contexte où, de façon compréhensible pour les interlocuteurs, l'expression « l'actuel roi de France est chauve » porte la valeur vraie, alors même que dans une autre entente de l'expression, il n'y a pas de roi de France. Et en anglais, ça marche encore mieux, parce qu'en anglais, ça pourrait vouloir dire « l'actuel roi de France est effronté, bold, il est particulièrement culotté ». Alors, il faut dire que là, ça devient particulièrement pertinent. De façon similaire, si on revient à l'exemple donc, tiré du film des frères Cohen, le héros, Llewellyn, dit « Carson Wells est dans sa chambre d'hôtel », est-ce que ce qu'il dit est si évidemment faux que cela? Le problème, c'est qu'il y a une certaine entente de la formule dans laquelle c'est parfaitement vrai. Il est effondré sur sa chaise, là, dans la chambre. D'où la réponse si sophistiquée du tueur, pas au sens où vous l'entendez. Carson n'est pas dans sa chambre au sens où Llewellyn l'entend. L'affaire pourrait donc paraître réglée au sens de Demet. Au sens de Demet, c'est donc faux de dire que Carson est dans sa chambre. Les choses ne sont pas comme il dit qu'elles sont. Application triviale de ce qu'on pourrait appeler la condition d'Aristote. Pourtant, je crois que Charles Travis a raison, même si on va dire, je ne partage pas absolument tous les termes de l'analyse qu'il donne de ce genre de situation. Je crois qu'il a au moins raison quant au fait que c'est beaucoup plus compliqué que cela. En effet, si en un certain sens ce que dit Liu Helin peut être tenu pour faux, est-il vrai pour autant que sa négation soit vraie ? Serait-il juste de dire que Carson n'est pas dans sa chambre ? Ça serait à vrai dire tout à fait égarant. Sauf là encore, en temps très spécial. Sauf à vouloir dire par là, son âme a déjà migré, ce corps effondré sur une chaise, ce n'est pas lui. Comme dit Aristote dans le traité de l'âme, il y a homonymie entre l'homme vivant et son cadavre. Le cadavre n'est pas l'homme vivant, si ce n'est pas homonymie. Ou bien on dira, il est mort, donc il n'est plus nulle part, etc. Mais c'est quand même une entente très spéciale de la négation du fait qu'il est dans sa chambre. Ça suppose tout un dispositif de compréhension différent. L'état actuel de Carson, en toute rigueur, ne correspond pas à ce qu'on appelle habituellement ne pas être dans sa chambre. Et c'était en tout cas certainement pas ce qui pouvait être entendu comme réponse possible à la question que posait le personnage qui demande au téléphone s'il était bien dans sa chambre. Donc sa question, en d'autres termes, n'ouvrait pas la possibilité que cette réponse-là ait ce sens-là. Le problème, c'est que l'entente avec laquelle était posée la question quant à la présence de Carson dans sa chambre n'excluait pas du tout une situation telle que celle rencontrée. Elle n'excluait pas positivement. Elle l'ignorait, bien plutôt. Elle l'ignorait purement et simplement et ne comportait aucune espèce de position ni de décision par rapport à celle-ci. La situation nouvelle, imprévue, change radicalement les termes du problème. Et à vrai dire, la question, maintenant, paraît non pas tant appeler une réponse négative que bien plutôt une dénonciation comme inepte. Elle devient ce que Austin appelle inepte. C'est dans ces termes-là qu'Austin analyse ce genre d'énoncé. Il n'y a en fait alors pas plus de raison de dire que l'énoncé Carson dans sa chambre et dans sa chambre est faux qu'il n'y en aurait de dire qu'il est vrai. En effet, l'énoncé n'est pas faux de la façon que suggérait son entente initiale. Sa fausseté n'est plus dans cette entente, pourrait-on dire, l'envers de sa vérité. Et la situation nous oblige soit à renoncer à la question initiale, soit à l'entendre en un sens tout à fait nouveau, dans laquelle, alors, elle s'avère avoir une réponse positive. Oui, le corps est bien dans la chambre. Le point important, c'est que cette nouvelle entente n'avait pas du tout été anticipée dans la première, qui se mouvait sous un horizon de présupposition complètement différent. Et c'est la raison pour laquelle cela n'a pas de sens de tenir cette nouvelle entente, que ce soit comme autorisée, première option, ou deuxième option, comme exclue, a priori, par la précédente. La première lecture, donc, qui consisterait à dire qu'en réalité, la première entente permettait peut-être la nouvelle entente révisée, qu'après tout, c'était pas exclu, donc si c'est pas exclu, c'est autorisé. La première lecture se nourrit d'un fait, tout à fait indubitable, qui est le caractère dynamique de la signification. Il y a une véritable capacité, à notre usage, à s'accommoder suivant l'évolution d'une situation. Néanmoins, cette lecture conduite jusqu'au bout porterait à une conclusion fort dangereuse et tout à fait inacceptable, à savoir celle d'une détermination complètement a posteriori du sens, selon ce qu'on pourrait appeler une espèce de mouvement rétrograde de la signification. Liu Helin ne le savait pas, mais ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait que Carson était dans sa chambre, c'est que celui-ci gisait sur sa chaise, un grand trou rouge dans la poitrine. Une telle conception, qu'on pourrait appeler expérimentale de la signification, je parle et le réel décide pour moi ce que je veux dire, paraît absolument contre-intuitive et opposée à l'idée même d'understanding. En revanche, ce qui est indubitable, c'est que le réel mesure largement ma capacité à vouloir dire ce que je dis, à mettre en œuvre tel ou tel understanding, c'est-à-dire à maintenir l'entente que j'en ai. Il y a des cas où tout se passe comme si l'understanding venait se briser contre le mur du réel, car les conditions ne sont pas réunies pour que la façon dont le discours est entendu ait un sens. Si on veut maintenir ce discours, il faut l'entendre différemment, d'une façon qui n'avait pas été anticipée par l'entente précédente. Alors la seconde lecture, qui consisterait à dire que l'entente initiale excluait carrément la nouvelle entente, en réalité, est également incorrecte, si en tout cas on l'interprète au sens fort, où ça veut dire que la nouvelle entente aurait été niée par l'entente précédente. Ça ne marche pas. Le réel fonctionne ici bien plutôt comme une borne extérieure du sens. Je mobiliserai l'opposition kantienne entre borne et limite, mais en me situant contre Kant du côté de la pensée des bornes, et plutôt que de la pensée des limites. Car, d'une certaine façon, cette borne qu'on rencontre là n'était pas incluse dans le type de limite, le type de partage, pour reprendre l'image de Demet, hein, le partage entre les états de choses vérifiants et les états de choses invalidants, ça ne se situait pas dans ce partage-là qui avait été tracé par l'entente initiale. Alors, d'une certaine façon, l'analyse que je viens de mener peut sembler recouper en grande partie celle de Demet, tout en apportant un autre niveau, la déplaçant sur un autre terrain. En réalité, elle entre pourtant profondément en conflit avec cette analyse de Demet. Alors, c'est sur quoi je voudrais revenir maintenant, dans une troisième section de ce travail, discussion, l'épistémique et le réel. La conséquence majeure de l'analyse de Travis, qui s'inscrit méthodologiquement dans ce qu'on appelle philosophie du langage ordinaire, c'est que l'indécidabilité est une situation beaucoup plus courante que ne pourrait en donner l'impression une certaine philosophie du langage, drapée dans une conception idéale de la sémantique, puisque cette indécidabilité appartient de fait à notre usage ordinaire du langage, dont elle constitue un risque essentiel. On ne peut jamais éliminer absolument le risque que l'énoncé le plus familier se révèle, dans certaines situations, indécidable. D'une certaine façon, c'est Demet lui-même qui semble avoir fait le premier pas sur ce terrain avec son puzzle de la bravoure de Jones, qui après tout est un énoncé de langage ordinaire. Il ne s'agit pas d'un énoncé de théorie des ensembles infinis. Il s'agit d'un énoncé tout à fait familier. Jones était-il brave ou non? Il se peut qu'il n'y ait même pas de point en jeu dans cette question, comme le dit si bien l'anglais. Or, le fait qu'il n'y ait pas un tel point est quelque chose qui a trait au réel et à son ameublement. Il se peut que la vie de Jones ait été ainsi faite que la question de la bravoure et de la non-bravoure, entendue en tout cas en une certaine entente canonique, ne se pose pas du tout par rapport à celle-ci. Ça n'empêchera pas, du reste, le poète d'écrire « Il tranchait bravement, ou pourquoi pas avec bravitude, sa tartine de pain. » Mais il s'agira alors du tout autre bravoure. On peut jamais exclure que les termes soient utilisés en une autre entente. Le problème, c'est qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de bravoure de Jones que nous le voudrions, et en tout cas que Demet ne le voudrait, dans les rencontres ordinaires de notre langage et de notre connaissance avec le réel. Il y a de multiples et déconcertantes façons pour le réel de ne pas être au rendez-vous, et cela quel que soit l'énoncé que nous considérions. Que penser, pour reprendre un autre exemple fameux d'Austin, dans Over Minds, si nous disons de cet objet devant nous, c'est un chardonneret, je promène dans la nature, je montre un ami, un oiseau, c'est un chardonneret. Et brusquement, voilà que cette chose explose ou se met à réciter du Shakespeare. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça n'est pas un chardonneret. Ce sera probablement vrai au sens où je l'entendais. Mais il faut souligner que ce qui ne convient pas au promeneur observateur d'oiseaux pourra aller très bien à l'occasion chez le taxidermiste, chez l'inventeur de tomates ou le montreur de marionnettes. Il pourra être tout à fait pertinent en situation de dire dans certains cas, c'est un chardonneret, dans une certaine entente bien définie, autre que celle du promeneur observateur d'oiseaux. Ce n'est pas juste, comme dans une perspective constructiviste, qu'il n'y a pas forcément de point à ce que nous demandons, ce qui impliquerait en bonne police de la pensée que nous devrions renoncer à certaines questions, puisqu'il n'y a pas de point qui y corresponde, mais beaucoup plus dérangeant, ça implique surtout qu'il se peut toujours, dans des cas certes marginaux mais inéliminables, qu'il y ait un autre, un tout autre point. Il faut bien comprendre que le problème ici n'est pas celui de l'ignorance. L'aporie relevée n'est pas seulement épistémique, mais bien en un certain sens sémantique, au sens où le sémantique ne peut pas, purement et simplement, se confondre avec l'épistémique. C'est précisément l'enjeu. Ce n'est pas en effet que mon affirmation « c'est un chardonneret » soit vraie ou fausse, en elle-même, comme devrait le soutenir le réalisme, selon Demet, ce réalisme qu'il critique précisément à ce motif, mais que, simplement, je ne serais pas moi en situation de connaître la valeur réelle de cette affirmation au moment où je la fais. Non, l'affirmation telle que je l'ai faite n'a pas, à proprement parler, de valeur. Les circonstances la rendent dépourvue de valeur. Elle est évidemment inadéquate, mais au sens où elle est inepte plus que fausse, pour employer le vocabulaire d'Austin. Si j'ai affaire à un animal empaillé, ce qui est vrai ou faux, c'est qu'il s'agit d'un chardonneret, et par exemple non d'une mésange, empaillée, mais non pas qu'il s'agit d'un chardonneret vivant versus une mésange vivante. Ce partage, purement et simplement, ici, ne s'applique pas, alors qu'il était très exactement ce qui était entendu dans mon assertion. Il n'y a pas là une valeur que j'ignore, mais qui ne serait pas celle que je crois, qui n'est pas celle que je crois, mais il n'y a purement et simplement pas de valeur du tout. Le réel rejette mon affirmation en tant qu'affirmation pourvue de la moindre valeur. elle est purement et simplement hors de propos. Elle repose sur un malentendu. Mais dire ça, est-ce que ce n'est pas, néanmoins, encore envoyer ce type d'échec à l'ignorance constitutive du sujet, mais cette fois à un autre niveau? Cette perte de valeur du discours n'est-elle pas toujours liée, en effet, à l'ignorance par le locuteur des circonstances exactes dans lesquelles celui-ci est tenu? Circonstances qui peuvent entrer en conflit avec la possibilité pour l'entente qui est associée à ce discours d'avoir un sens. De ce point de vue, je crois que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît et il faut absolument faire certaines distinctions. En effet, il n'est nullement dit que la connaissance des circonstances qui rendent l'énoncé inepte empêche le locuteur de l'énoncer suivant cette entente même dans laquelle il est inepte. Une telle thèse rendrait inintelligible des phénomènes comme l'art tout britannique du nonsense dont Austin joue si bien dans sa propre construction du problème. Évidemment, on peut penser qu'un locuteur qui, en connaissance de cause, émet un énoncé suivant une entente dont il sait que les conditions ne sont pas réunies, s'installe dans une forme de contradiction performative, puisqu'il fait comme s'il assertait quelque chose dont il sait qu'on ne peut pas l'asserter. Comme le remarque Maria Teresa Matos Ferreira Marques dans une très intéressante thèse rédigée sous la direction de Charles Travis, dans laquelle, à vrai dire, elle développe une critique de la position de Charles Travis, un tel locuteur pourra à bon droit être qualifié de pervers. Le point est cependant que l'énoncé est de toute façon inepte, et cela que l'énonciateur sache ou ne sache pas, même si le locuteur n'en sait rien, et même s'il asserte en toute bonne foi. Et d'une certaine façon, ça ne change pas s'il sait. S'il sait, bon, il est peut-être pervers, mais son énoncé n'est pas moins inepte du fait de sa perversité. Sa perversité n'y change rien. L'ineptie est une propriété objective de l'énoncé, indépendante non pas de la compréhension, de l'understanding qui peut y être associé, mais des intentions particulières de discours qui peuvent être celles du locuteur, en un sens autre, au sens perlocutoire du terme, dire en connaissance de cause une absurdité, éventuellement aux fins de tromper, ou bien au contraire avoir la prétention d'énoncer une vérité, d'apprendre quelque chose à l'interlocuteur. C'est un autre problème. L'ineptie réside dans la confrontation objective de l'énoncé pris dans une certaine entente et des circonstances réelles dans lesquelles il est énoncé. Cela, quel que soit l'état épistémique du locuteur, eu égard à ces circonstances. C'est en cela que c'est bien une forme de principe de réalité qui se fait jour là, et non pas la simple pathologie, toujours possible, des intentions de l'énonciateur. A priori, l'ineptie n'est pas plus du côté de l'ignorance que du savoir. Évidemment, on peut douter, par ailleurs, qu'un locuteur correct, jouant le jeu de la communication, puisse décemment maintenir une compréhension de la situation clairement inadéquate, une entente de la situation clairement inadéquate, une fois qu'il sait ce qu'il en est des circonstances. Cette remarque permet cependant de préciser de façon salutaire la notion d'understanding, telle que Travis l'utilise et telle que j'ai mobilisée jusque-là. Ce concept ne relève pas purement de la philosophie de l'esprit. Il s'agit bien d'un concept de philosophie du langage, dont on a souligné le caractère essentiel à toute analyse linguistique. Tout au plus indique-t-il la solidarité et l'imbrication de la philosophie du langage et de celle de l'esprit, la première ne pouvant faire l'économie de concepts qui, en un certain sens, appartiennent à la deuxième, et en tout cas renvoient à un concept substantiel de l'esprit. Quand on parle de la façon dont une expression est entendue dans une énonciation effectuée à une certaine occasion, il ne s'agit certainement pas des croyances que peut par ailleurs entretenir le locuteur quant à la situation de cette énonciation, et de la façon dont il comprend la situation, au sens vague, on utilise parfois ce terme « comprendre ». Il s'agit du mode d'usage de l'expression en question, donc de quelque chose, en un certain sens, de public, au sens où il est supposé que cette façon d'en user, en tant que façon d'en user, soit, en un certain sens, exportable, qu'un autre locuteur puisse également en user de la même façon. Évidemment, il n'est pas dit que dans la situation donnée, l'interlocuteur comprenne nécessairement la façon que j'ai d'en user, et donc ce que je veux dire par l'expression en question. Il n'en reste pas moins que cette façon est aussi bien ce qui est offert, au moins théoriquement, à la compréhension d'autrui, et qui permet à mon énoncé, si les circonstances sont favorables, d'avoir une valeur qui est tout à fait indépendante de ma capacité à avoir moi-même accès ou non à cette valeur. Je peux très bien être tout à fait dans le faux quant à la valeur de mon énoncé, et même quant au fait qu'il ait une valeur. Mais ça n'empêche pas à l'énoncé d'avoir une certaine valeur parfaitement définie, suivant l'entente qui est la sienne à ce moment-là. Je peux donc, en connaissance de cause, Énoncer un énoncé selon une entente que je sais inappropriée en un sens ou en un autre, cela n'introduit pas de contradiction dans l'espace de mes croyances qui sont un autre problème. Là, on parle de l'entente de l'énoncé, de l'usage de l'énoncé. On ne parle pas de ce que je peux penser par ailleurs indépendamment de mon usage de l'énoncé. En revanche, l'entente que j'ai de mon énoncé est relativement indépendante de son appropriation ou inappropriation, ainsi que de ma capacité à évaluer la valeur prise par lui sous cette entente, s'il a une telle valeur. On peut bien sûr douter de la possibilité de maintenir longtemps un discours qui serait systématiquement inapproprié, ou même qui serait systématiquement faux, ce qui serait une autre question. Tout simplement parce que nous ne parlons pas tout seul, mais parler, jouer au jeu de l'usage, par définition publique d'expression, c'est forcément s'exposer à la correction par autrui, dans l'interaction. Le point important toutefois, c'est que dans le premier cas, le cas de ce que j'ai appelé inappropriation, donc pas celui de la fausseté, la correction n'intervient pas, si ce n'est éventuellement par charité rhétorique, sur le mode bienveillant du « ce que tu voulais dire, c'est que », mais sur celui de « dans cette situation, ce qu'il faudra entendre par cette expression, c'est que », not in the sense that you mean. Et le sens se voit par là requalifié, un understanding est substitué par l'interlocuteur à un autre. Ce qui suppose bien qu'au départ, il y a bien eu un tel autre understanding. Sinon, la correction même n'aurait pas de sens. Pour qu'une entente soit déboutée, il faut bien qu'elle ait eu une forme de consistance. De ce point de vue, le propos de Charles Travis n'est certainement pas de rejeter cette espèce de cartésianisme minimal, mais en même temps très fort, très exigeant, qui subsiste dans une perspective comme celle de John McDowell, à savoir le cartésianisme suivant lequel on sait nécessairement ce qu'on entend par une expression. On sait nécessairement dans quel understanding on est. Les cas où on ne sait pas bien ce qu'on veut dire sont ceux où on ne veut rien dire du tout et doivent être expulsés du domaine du sens suivant ce qu'on appelle aujourd'hui la conception austère du non-sens. Le locuteur, en un certain sens, s'il dit vraiment, est nécessairement au clair avec ce qu'il veut dire, même s'il est peut-être plus fréquent que ne le voudrait la raison que nous ne soyons qu'en porte-à-faux dans le dire et que nous ne soyons pas bien sûrs que nous disions, que nous soyons incertains quant au fait que nous disions réellement. Dans ce cas-là, en réalité, nous ne disons pas du tout. En revanche, le problème, c'est que ce que dit le locuteur, c'est-à-dire inévitablement ce qu'il veut dire, en un certain sens, tel qu'il veut le dire, n'est jamais assuré d'être vraiment quelque chose de significatif, au sens d'avoir une valeur. À cela, les ressources fournies par l'entente selon laquelle les signes sont utilisés ne suffisent pas. Le fait que cette entente activée par le locuteur ait une forme d'objectivité, soit un usage possible des signes utilisés, se comprenant dans sa référence à un certain type de situation, ne suffit en effet nullement à garantir qu'elle soit même de prendre en charge n'importe quelle situation, que cela ait même un sens de l'appliquer à n'importe quelle situation. Ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut dire, ce qui ne veut pas dire, soit dit en passant, qu'on soit forcément capable de se le représenter indépendamment du fait de le dire, que ce qu'on dit, en ce sens-là d'un dire déterminé, de ce que j'appellerais un dire entendu, serait forcément pertinent. On peut très bien savoir ce qu'on veut dire et que ce qu'on veut dire soit tout à fait à côté de la situation dans laquelle on le dit. En ce sens, pour ressaisir le problème dans les termes initialement fournis par Demet, on a tôt fait de rencontrer, par rapport à quelque énoncé que ce soit, ce que j'appellerais les limites de l'assertibilité. Et cela n'a pas de sens, dans une restriction délibérée du discours, que de vouloir rester à l'intérieur de ces limites. Ces limites, en effet, n'ont rien d'immanent. Elles ne sont pas comprises dans le sens que nous produisons dans chacun de nos énoncés effectifs. Et les traités nous obligent, en fait, à regarder en dehors de ce sens. Donc, quatrième et dernier moment, coda métaphysique, l'indifférence du réel. Cette nécessité d'aller regarder dehors, c'est-à-dire en dehors de l'entente, indépendamment de laquelle il n'y a pas de sens de l'énoncé, va évidemment à l'encontre du principe même de l'analyse présentée par Demet. Ce que je suis en train de dire, rejetant la construction demetienne purement sémantique, au sens d'une sémantique pure, une sémantique sans contexte, du problème du réalisme, c'est que l'existence irréductible d'énoncés indécidables, loin de constituer un argument en faveur de l'antiréalisme, disons de l'intuitionnisme, atteste au contraire la vérité du réalisme, au sens où elle n'est intelligible qu'à la lumière d'un tel réalisme, une fois prise la mesure de l'écart qu'il y a, et qu'il peut toujours y avoir, entre nos façons déterminées de construire le sens et le réel qui se prête ou non aux prises qu'elles essaient d'exercer sur lui. L'indécidabilité telle que nous l'entendons est donc un symptôme du réel, bien plutôt que la marque de son défaut, la marque d'une transcendance illusoire qu'il faudrait congédier et que nous pourrions congédier, comme dans l'analyse de Demette. Il s'agit non pas d'abandonner la prétention à un accès à un réel transcendant et de se replier sur un sens absolument épistémique de l'objet, comme ce qui peut être construit exclusivement, mais plutôt de prendre la mesure des tours que le réel, qu'il faut bien postuler dans sa transcendance, peut nous jouer dans notre prétention d'y accéder. Or, il est bien clair qu'une telle problématique nous installe dans une forme d'excès structurel par rapport au point de vue épistémique. Même si, en un certain sens, je pense que par le type d'analyse immanente que j'ai proposé jusque-là, on peut le voir, on pourrait peut-être parler d'un excès du point de vue épistémique sur lui-même. C'est le point de vue épistémique lui-même qui nous conduit forcément à postuler autre chose, à déborder. Or, il est bien évident que c'est exactement là la cible de Demette. De ce point de vue, il faut évidemment relever la critique très forte qu'il adresse à la philosophie du langage ordinaire dans l'article précisément éponyme du présent séminaire. Demette conteste le type de référence à l'usage des expressions qui peut être faite par la philosophie du langage ordinaire. Parce que, dit-il, cette référence, dans ce genre d'analyse, suppose généralement, je cite, « la mise en œuvre de concepts psychologiques et sémantiques dont une théorie de la signification n'est nullement en droit de présupposer la compréhension préalable, puisqu'on pourrait au contraire attendre d'elle qu'elle les explique. » Fin de citation. Comment, pour expliquer le type d'accès que nous pouvons construire au moyen du langage à la richesse du monde, pourrions-nous présupposer cette richesse donnée et puiser si abondamment dans ses réserves? De façon éminemment significative, qui fait immédiatement signe vers tout le débat que j'ai pu entamer, et qui, d'une certaine façon, me justifie à caractériser la position présentée jusque-là comme réaliste, au sens même que critique Demette, puisque d'une certaine façon, dans la position présentée jusque-là, loin de nous débarrasser de l'ambivalence, d'une certaine façon, on n'a fait que s'y installer et s'y vautrer, tenir pour acquis le point de vue du vrai et du faux, puisque s'interroger sur notre capacité à utiliser pertinemment des notions comme vrai ou comme faux, à structurer d'une certaine façon toute notre analyse, y compris nous a servi de levier pour repérer le cas où ça déborde, le cas où ça ne marche plus. Ça se comprend que par rapport à un primat de ce partage-là, l'analyse qui est menée, et ça se comprend que dans une perspective où on présuppose d'une certaine façon ce partage-là acquis. Alors, il est intéressant que dans sa critique de la philosophie du langage ordinaire, dans l'article justement sur la question de savoir si la philosophie analytique doit être systématique, Demette va faire un sort particulier à ce qui lui paraît énorme dans la position des philosophes d'Oxford, du langage ordinaire, à savoir la présupposition des valeurs de vérité. Le fait qu'ils partent d'un point de vue où les notions de vrai et de faux sont déjà établies, sont présupposées. Alors je cite cette attaque directe de Demette. Ce défaut, donc le défaut d'avoir trop de présupposés métaphysiques et de ne pas être capable de les constituer par la sémantique. Ce défaut n'est nulle part plus évident que dans l'usage constant fait dans cette tradition des concepts de vérité et de fausseté, comme s'ils n'appelaient aucune explication. Car ce sont là des concepts qui appartiennent bien de plein droit à la théorie de la signification et qui n'auront été pleinement élucidés qu'une fois que nous aurons compris le rôle qu'ils doivent jouer dans une théorie correcte de la signification pour un langage. Et pourtant, ils, c'est les philosophes de tradition austinienne, l'employaient dans des descriptions de l'usage et des disputes entières étaient conduites quant au fait de savoir si ces concepts, dont vrai et faux, devaient être appliqués à telle ou telle phrase, dans des conditions déterminées, ou s'ils devaient l'être du tout, donc le problème qu'on vient de poser. Non seulement comme s'il était parfaitement clair quelle est la connexion entre la vérité et la signification, mais comme s'il n'y avait rien qui puisse être objet d'une connaissance, donc rien non plus qui puisse être dit dans une telle connexion. Fin de citation. Alors évidemment, la justesse du descriptif rend cette critique tout à fait impressionnante. Il se pourrait néanmoins, c'est en tout cas mon avis, qu'elle repose sur un coup de force théorique. Ce même coup de force, en réalité, qu'on trouve à la base de la critique demettienne du réalisme, au sens où, au fond, la position de Demette n'a de sens que si il est en notre pouvoir de nous dispenser d'un tel engagement. Poser la question du réalisme comme il le fait, c'est faire comme s'il était en notre pouvoir de ne pas être réaliste au sens où il l'entend. On pourrait dire que là, il y a une sorte de contrainte intuitionniste renversée qui est que il y a une contrainte de possibilité, qui est que c'est bien joli de disputer pour savoir s'il faut être réaliste ou pas, mais si on le dit dans des termes tels qu'il soit impossible de ne pas être réaliste, qui mobilise des concepts qui s'enracinent dans cette perspective-là, il y a un problème qui surgit. L'idée sur laquelle repose le raisonnement de Demet est qu'un point de vue sur la signification est possible qui fasse abstraction de la question de sa valeur de vérité. Il doit être possible de rendre compte de la signification dans des termes qui laissent de côté ce problème pour le constituer seulement en un second temps. Et Demet, dans cet article, croit pouvoir trouver chez le second Wittgenstein, de ce point de vue, une démarche alternative à la philosophie du langage ordinaire qui rendrait possible une telle opération. Ce qui fait la force de la méthode des recherches philosophiques, c'est, selon Demet, qu'elle approche des notions sémantiques, telles que celles de vérité ou de fausseté, d'une façon qui ne les présuppose pas, d'une façon non transcendante, qui permet, en théorie, d'expliquer de telles notions, y compris à qui n'en disposerait pas, en lui montrant à quel genre de faire correspondent ces notions-là. Alors, selon le commentaire, je pense ici en terrain tout à fait connu, puisque selon le commentaire que donnait Jacques Bouvresse de cette démarche en 1980, dans son article « Frege, Wittgenstein, Demet et la nouvelle théorie du réalisme », je cite, « Pour Demet, aucune forme de réalisme n'est acceptable si son concept de signification comporte un ingrédient qui ne peut pas résulter de l'apprentissage ni être exhibé, le cas échéant, dans l'usage. » Fin de citation. Alors, évidemment, je pense que le problème couvre cette perspective de Demet, c'est alors inévitablement de savoir ce que signifie exactement cette référence à l'usage. De quel usage s'agit-il ? La difficulté de la position défendue par Demet pourrait résider dans la sous-détermination délibérée dans laquelle il laisse cette notion, qu'il tient à son tour pour acquise. Il accuse les philosophes de langage ordinaire de partir du vrai et du faux comme des choses bien évidentes, bien connues, mais lui-même oppose la construction de ces notions depuis un concept d'usage qui, à vrai dire, paraît extraordinairement présupposé. La grande force de la ligne d'analyse développée depuis les années 70, notamment par John McDowell, inversement, et contre Demet assez explicitement, est de souligner qu'il n'y a précisément pas d'usage porteur de sens, indépendamment même de la mise en œuvre de ces notions mêmes, que selon la perspective qui se veut purement sémantique de Demet, cet usage serait censé constituer. En d'autres termes, selon McDowell, la notion d'assertibilité, par exemple, loin de permettre de constituer, donc en un sens de réduire les notions de vrai et de faux, comme Demet l'espère, les suppose en fait constitutivement. Pour comprendre ce que c'est qu'asserter, il faut déjà raisonner en termes de vérité ou fausseté intrinsèque de l'énoncé. Cet engagement par rapport à la référence, par rapport au vrai et au faux, je rappelle que, en termes fréguiens, le vrai et le faux sont la référence des propositions, est en réalité, de toute façon, d'après McDowell, un trait essentiel de la signification elle-même. Celle-ci se détermine toujours comme un certain rapport, correct ou incorrect, avec le réel. Et il est donc impossible de l'aborder, comme prétend le faire Demet, indépendamment d'un tel rapport, pour par après seulement se donner le choix de retrouver celui-ci ou non, depuis ce sens supposé neutralisé de la signification. On aurait là la clé de ce qu'on pourrait appeler la fausse alternative du réalisme et de l'antiréalisme. On se donne un sens déconnecté de son engagement par rapport au vrai au faux, et par après, on se donne le luxe de reconstituer ou non un accès, depuis ce sens, en un sens neutralisé, au problème du vrai et du faux. Alors, McDowell soutient que la notion de sens qui est isolée de cette façon est une notion de sens en réalité incorrecte, qu'il faut avoir un entendre de la signification qui soit toujours liée à la référence. En d'autres termes, McDowell plaide pour un entrelac constitutif de l'épistémique et du transcendant. Bon, il y a de nombreux papiers, évidemment, dans ce sens, mais le débat avec Demet, on peut citer en particulier l'article de 79 intitulé « True Value Gaps », donc qui est exactement sur le sujet dont on a parlé jusqu'ici. La constitution de nos attitudes épistémiques et sémantiques, épistémiques parce que sémantiques, on pourrait dire dans une approche comme celle de McDowell, n'est pensable que dans un certain rapport à la transcendance, toujours déjà donné, il y a là une condition du sens lui-même. Il faut donc déstabiliser toute conception du sens, abstraite et en toute rigueur incorrecte, qui en ferait un couloir d'accès à la transcendance, un préalable par rapport à celle-ci, qui se verrait alors réduite à l'état de question. Y a-t-il véritablement ou non quelque chose au-delà de mon discours ? Cette question même a-t-elle un sens ? Voilà le genre de question qui, d'habitude, constitue la physionomie du sempiternel débat sur le réalisme ou l'antiréalisme. Alors même, dit McDowell, que ce discours n'est possible que là où il se nourrit de cette transcendance, que dans le lien déjà établi à cette transcendance. Le véritable problème serait alors, suivant une formule suggérée par Charles Travis, de surmonter une certaine conception de la signification, comme ombre, shadow, intercalaire entre nos énoncés et ce que ceux-ci prétendent désigner, une ombre en vertu de laquelle ceux-ci renverraient à ce à quoi ils renvoient intrinsèquement, prétendument, indépendamment de leur usage. Alors, il peut sembler paradoxal d'invoquer cette conception contre Demette, puisque sa propre conception de la signification prétend précisément installer celle-ci dans un lien intrinsèque avec l'usage, et que le point d'application de son analyse, de façon très remarquable, c'est les statements, qui sont de véritables actes linguistiques, par rapport auxquels la notion d'assertion est pertinente, plutôt que les sentences, plutôt que les phrases qui sont utilisées pour effectuer de tels statements. Mais ce qui manque à l'analyse de Metienne, ce sont les notions de sensibilité à l'usage et de sensibilité aux circonstances, comme constituantes de l'image même, pas comme une sorte d'effet parasitique qui surviendrait sur l'usage, mais comme des dimensions constitutives de la notion d'usage même. D'une certaine façon, dans l'analyse de Metienne, la réification du sens ne fait que descendre d'un cran, de la phrase vers l'énoncé, où elle est ponctuellement utilisée. À ce niveau, se reconstitue quelque chose comme l'ombre d'une signification qui est censée valoir en soi et pour soi, indépendamment des circonstances, qui s'évanouissent dans le vide représenté dans une telle analyse par la transcendance de ce qui n'a pas été constitué, la transcendance de ce qui n'est pas dans le sens. D'où le fait que Demette croit découvrir des énoncés pourvus de sens et qui pourtant n'ont pas de valeur de vérité, au sens où ce sens qu'ils ont est tel qu'on ne puisse pas leur en constituer, qu'on ne puisse pas construire une telle valeur. Cette possibilité est un résultat du préalable et de l'autonomie postulée du sens. Le sens vient d'abord, et compte tenu de ce qu'il est, il peut porter une valeur ou non, suivant qu'en lui sont ou non définies les conditions de son assertibilité. Alors, il est bien évident que le point de vue que j'ai défendu dans cet exposé est totalement différent, voire opposé. Je suis parfaitement d'accord avec Demette quant au fait que l'usage est par lui-même producteur de sens et qu'il n'y a pas de sens indépendant d'un tel usage. Mais un tel usage est, à mes yeux, toujours en un certain sens, usage du réel. Il ne peut pas être hypostasié, isolé des liens constitutifs qu'il entretient avec un certain contexte, un certain tissu de réalité. Il n'y a pas d'usage indépendamment d'un certain scénario intentionnel complexe, un scénario qui se construit au sein même du réel, à l'image de ceux que le second Wittgenstein, qu'invoque Demette, se plaît précisément à décliner dans les recherches philosophiques. D'autre part, tout usage du sens prétend toujours une certaine chose par rapport au réel. Suivant une autre intuition Wittgensteinienne matricielle, l'idée de limite de l'assertion, de ce point de vue-là, n'a pas grand sens, car il est impossible de dire quelque chose sans par là même dire que c'est le cas. Il n'y a pas ce retrait possible par rapport à l'assertion. La prétention à la réalité est une dimension constitutive de ce que nous appelons discours, et on ne peut retenir le sens sur la voie du monde. On ne peut pas faire en sorte que le sens stops short of fact, suivant une formule affectionnée par Wittgenstein, sans par là même détruire le sens et l'annuler comme sens, sans s'installer purement et simplement dans le registre du non-sens. Tout sens n'est pas vrai, mais il n'y a sens que dans la mesure où il y a prétention articulée à la vérité, et donc quelque chose qui peut être vrai ou faux. De ce point de vue, il n'y a pas d'exception de principe a priori à l'ambivalence, contrairement à ce que voudrait Demette. La question du réalisme ne se pose même pas. Le réalisme est, si on peut dire, une structure a priori de notre pensée, c'est-à-dire de ce que nous appelons pensée, Gedanke au sens de Frege. Reste le problème des apparentes exceptions a posteriori, ce qui est un autre problème, le problème que j'ai abordé de mon côté. Des exceptions contingentes dont j'ai prétendu repérer l'existence. Et c'est là, sans doute, c'est là-dessus que je voudrais terminer, que se cache l'ultime réserve du débat entre le réalisme et l'idéalisme, la véritable arête sur laquelle peut se formuler une opposition entre quelque chose qu'on appellera réalisme et quelque chose qu'on appellera idéalisme. Y a-t-il réellement des trous de valeur de vérité, true value gaps? Notre argumentation a conduit à répondre affirmativement à cette question. Et pourtant, contrairement à Demette, avoir dans cette reconnaissance un trait constitutif d'une position réaliste. Or, il peut sembler toujours loisible au réaliste, au sens même que j'ai indiqué, et que j'essaie de défendre, de reprendre et d'adapter l'argumentation que Demette développe par rapport aux statements à solution constructible, aux statements finis. En effet, en un certain sens, il est bien vrai, comme on l'a rappelé, que si X est mort dans sa chambre, c'est l'exemple originel d'Austin, il n'est pas là au sens où nous le cherchions. Et donc, il est bien vrai que l'énoncé selon lequel il était là, dans cette entente-là, était faux. Il ne s'agit pas en cela de confondre purement et simplement les conditions de pertinence de l'énoncé avec ses conditions de vérité, mais de soutenir qu'une partie importante de son sens même, qui suivant le point de vue proposé, qui consiste à ne plus voir dans le sens un voile ou une entité intermédiaire de notre accès au monde, mais à reconnaître cet accès même, une partie importante de ce sens même est la construction de ces conditions de vérité. Or, pour la construction de ces conditions de vérité, il est fondamental de prendre en compte la fixation des conditions de pertinence de l'énoncé en question. C'en est un aspect. C'est une des conditions préalables pour que l'énoncé puisse avoir des conditions de vérité. Ce point de vue, qui intègre donc au sens en tant que construction de possibles conditions de vérité, le problème de la pertinence, est celui de John McDowell, défendu dans de nombreux articles. Selon lui, il n'y a pas à proprement parler de trou de valeur de vérité, parce que sont constitutifs de tout sens ces conditions d'ajustement avec le réel et les conditions même de la prise qu'il peut exercer sur le réel. Il est donc fondamental, à mon énoncé sur X qui est chez lui, pour reprendre l'exemple d'Austin, que le dit X soit bien vivant. Cette contrainte logique est alors fixée a priori par le sens de l'énoncé, qui va donc avec ce sens et ce seul sens à la rencontre du réel, qui le satisfait ou non. En d'autres termes, l'idée, c'est que le sens fixe lui-même ses limites de façon immanente. Ce qui pourrait être perçu à un niveau superficiel comme la mise en échec du sens, doit bien plutôt être interprété comme une infraction au standard que ce sens a défini. Et donc, en clair, comme un cas de fausseté. On conserverait là quelque chose de recel, au fond. Ou alors, c'est que l'expression n'était pas entendue au sens que l'on croyait, que ce sens n'avait pas été suffisamment défini, et donc qu'on n'avait pas affaire à une véritable expression, que celle-ci n'avait pas de sens. C'est là la conception dite austère du non-sens, hein, que Jacques Bouvresse présentait dans son livre « Dire et ne rien dire ». Cette conception dite austère du non-sens nous prend éventuellement en défaut de sens, au sens où il peut arriver que nous soyons en défaut d'avoir véritablement donné un sens à ce que nous disons, mais pour elle, d'une certaine façon, le sens, lui, ne peut jamais être en défaut. Il répond parfaitement à ce à quoi il a à répondre, c'est-à-dire au genre de situation auquel cela a un sens de l'appliquer, compte tenu du sens qu'il est, lui-même en tant que sens, définissant le genre de situation auquel ça a un sens ou non de l'appliquer. Alors pour ma part, j'ai du mal à ne pas avoir le sentiment que derrière cet immanentisme du sens préconisé par John McDowell, et donc de façon cohérente dans cette pensée, cet immanentisme de l'évaluabilité, puisque d'une certaine façon l'idée c'est qu'il n'y a pas de sens qui ne soit pas évaluable, il n'y a pas de sens qui ne fixe pas ses propres déterminations d'évaluabilité, j'ai du mal à avoir le sentiment que derrière cet immanentisme dont on ne sort pas, hein, par définition, ne se cache pas en fait une nouvelle forme d'idéalisme. Cet idéalisme hegelien dont McDowell a fini par s'en réclamer. Idéalisme qui revient à ne considérer le monde que toujours déjà selon la mesure de la pensée qu'on y applique. Comme l'écrivait Jacques Bouvresse à la fin de son article sur Demet en 80, contre Demet, en mentionnant également John McDowell, contre Demet qui considère la signification du point de vue de l'exil cosmique, c'est-à-dire indépendamment de notre façon de signifier effectivement dans le monde, en se plaçant à l'extérieur des pratiques de signification dans lesquelles nous sommes pris, je cite Jacques Bouvresse, « Comme le remarque McDowell, la façon correcte de procéder est de nous voiler la face devant l'idée d'exil cosmique. » Fin de citation. Donc ça, effectivement, c'est le point de vue de McDowell. C'est depuis l'intérieur de ces pratiques qui sont les nôtres que la question du sens et de sa pertinence doit être posée. Or, à ce niveau, par définition, la question est toujours déjà réglée. On ne peut littéralement pas en sortir. Si on est bien dans une pratique, et une pratique stabilisée, dont les conditions sont réunies pour qu'elle fonctionne, la possibilité de son non-sens, par définition, est évacuée. Ça n'a pas de sens de spéculer sur un être du monde qui serait indépendant de la question qu'on lui pose alors. Si la question est posée, si la question a pu être posée comme question, si elle fonctionne comme question, le problème est déjà résolu. Évoquer ce genre de possibilité, ce serait adopter la perspective de ce que McDowell appelle, après d'autres, le réalisme transcendantal, que Jacques Bouvresse également critiquait à la fin de son article de 1980, donc à propos de Demet. Le problème de la rencontre du sens et du réel n'est pas une question qui puisse se poser à l'extérieur, mais bel et bien une question qui se pose à l'intérieur du sens lui-même, depuis le sens lui-même et sur le terrain sur lequel il y a du sens. Or, si cette critique me paraît absolument fondée, contre toute forme de réalisme métaphysique de survol, qui prétend déployer le réel dans une forme d'extériorité globale par rapport au sens, comme ce qui serait en face de lui, et qui serait vu on ne sait pas trop de quel point de vue, il me semble que pour autant, l'extériorité du réel par rapport au sens conserve une signification locale et extrêmement importante, qu'il faut défendre absolument si on ne veut pas retomber dans une forme d'idéalisme. S'il est vrai que tout usage aménage un certain type d'approche du réel, d'où il fait lui-même partie, c'est là une dimension même du sens, loin de constituer un impensé par rapport à lui. S'il est vrai que cet usage donc entend qu'il fait partie du réel positivement à certaines conditions, il n'est pas vrai qu'il soit par là même soustrait à tout choc de ce réel. Bien sûr, le réel n'est pas comme une masse informe, comme cette factualité brute que McDowell n'a de cesse de dénoncer comme une illusion transcendantale, purement extérieure à l'usage. L'usage ayant une fonction structurante, construisant l'espace logique de ce qu'on peut appeler une représentation, il est clair qu'en règle générale, ce qui est donné, les données suivant une option ou une autre de celles qui sont délimitées par ces structures représentatives que couvre l'usage. Cependant, il y a indubitablement des cas où l'usage est, si on peut dire, surpris par le réel, où intervient quelque chose qui, tel quel, ne peut pas être situé dans le type de partage qui était instauré par l'usage en vigueur, cela fût-ce sous le régime de l'exclusion. Il y a ce qui n'était même pas exclu par cet usage. Cela non pas au sens où on n'avait pas pensé à l'exclure, car la force transcendante du sens est qu'il n'est pas besoin de penser à quelque chose pour l'exclure. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans la position de McDowell. Mais au sens où cela touche des couches trop profondes de ce qui est présupposé par cet usage pour que celui-ci conserve son mordant par rapport à ce genre de situation et que cela ait un sens de considérer qu'il l'exclut, que la fausseté de l'énoncé puisse alors être signifiante. Cette extériorité est strictement locale, au sens où ce qui déjoue les partages institués par un énoncé ne déjoue de toute évidence pas ceux institués par un autre énoncé, fût-ce d'ailleurs un énoncé utilisant les mêmes termes, mais simplement entendu différemment, pourvu cette fois d'une autre entente. Et ce genre d'échappement du réel à ce que nous voulons dire à tel ou tel moment est d'une certaine façon tout à fait connaissable. Nous en connaissons tous de nombreux cas que nous sommes capables d'identifier comme tels, et donc d'énoncer comme tels dans d'autres énoncés que l'énoncé initial. Donc en ce sens-là, ce réel n'est pas si extérieur que cela au jeu du sens. Il ne s'agit pas de dire que nous n'avons jamais accès au réel, mais il s'agit bien plutôt de dire que le réel, au contraire, essentiellement ce à quoi nous avons accès. Mais il s'agit bien plutôt de dire que les outils que nous utilisons pour approcher ce réel ne sont pas toujours les bons, et qu'il y a là une marque de sa réalité, qu'il y a la possibilité d'un décalage et d'un écart dans l'accès même, comme lorsque l'ouverture d'une porte nous conduit dans une autre pièce que celle où nous croyons arriver. Nous élaborons alors, en règle générale, immédiatement, une stratégie de rechange qui tient compte du fait qu'il s'agit d'une autre pièce. Sauf, ça peut arriver aussi, à ce que nous ne comprenions pas tout de suite et continuions à raisonner et parler comme si c'était la bonne pièce. Ce n'est pas tant donc du dépassement du sens dans la pure transcendance de ce qui n'aurait pas de sens qu'il s'agit à mes yeux, que du décalage toujours possible dans lequel le sens peut se trouver par rapport au réel auquel on l'applique. Il n'y a aucune raison que le réel nous fasse toujours la faveur d'être celui dont l'usage dans lequel nous sommes avait besoin, même s'il y a bien sûr des chances qu'il le soit, sinon il serait étrange et même tout à fait inintelligible que nous soyons précisément dans cet usage-là. Il faut bien dire d'ailleurs que dans les cas où ça arrive, c'est en effet cet effet d'inintelligibilité qui se produit. Il y a un malaise dans ce cas-là, dans le rapport à ce réel. Si je dis que X est chez lui, c'est en règle générale, sauf à ce que je sois croque-mort ou que je fasse de l'humour austinien, que j'ai de bonnes chances, que j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est bien vivant. Et en règle générale, l'usage et le réel vont d'un même pas, puisque l'un se règle systématiquement sur l'autre, naviguant par rapport à lui et en toute rigueur en lui. Il peut cependant arriver que X soit mort, et ce n'était pas envisagé, ni surtout envisageable, dans mon assertion initiale. Il faut reconnaître là, contre toute philosophie qui ferait trop immédiatement du sens la mesure sans reste du réel, donnant par là même à tout réel un sens, a priori, la fondamentale indifférence du réel, qui est le thème de nos pensées, toujours disponible à être pensé. Ce n'est qu'ainsi qu'il devient possible d'en dire quoi que ce soit, et que cela a un sens de se référer à la réelle. Je ne vois pas ce qu'est la notion de réelle pour nous interdire d'autres. Mais dont il est pour autant nullement a priori nécessaire qu'il soit effectivement pensé par telle ou telle pensée. Tel me semble être le véritable suc de la notion de réalisme. Alors pour terminer, je me suis référé au film, mais je voudrais vous mentionner ce beau morceau de philosophie populaire qu'on trouve dans le livre correspondant au film des frères Cohen, le roman de Cormac McCarthy, No Country for Old Men, tout à fait extraordinaire. Au moment où vous trouvez ce soliloque suivant, When you encounter certain things in the world, the evidence for certain things, you realize that you have come upon something that you may not very well be equal to. When you've said that it's real, not just in your head, I'm not all that sure what it is you have said. C'est particulièrement pertinent. Il y a décidément plus de choses dans le monde que dans nos philosophies, et cela, nous pouvons le dire, même s'il serait tout à fait illusoire de croire que par là, nous aurions dit que ce soit quoi que ce soit de substantiel, que par là, nous aurions fait un énoncé factuel de plus. Je vous remercie.
Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez appris, qui me pose énormément de problèmes, bien que, après vous avoir entendu, je ne sais pas qui a le plus de problèmes. Est-ce que c'est le réaliste ou l'anti-réaliste ? C'est pas évident, hein, d'une certaine façon. Au premier abord, c'était le réaliste qui était censé en avoir, mais à la fin, il apparaît que l'anti-réaliste en a peut-être tout autant et même encore plus. Mais enfin, c'est pas sur cette question-là que je veux m'attarder. J'ai juste deux ou trois observations à vous faire pour ouvrir la discussion. D'abord, je crois que vous avez trop insisté sur ce que vous avez appelé l'anti-réalisme de Domet. Il ne serait pas du tout content si vous entendez, parce que il est exact qu'au début, il a eu un peu tendance, involontairement, je crois, de présenter comme quelqu'un qui cherchait à...